Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Aujourd'hui, le 31 mai, c'est la journée de la mer en Corée du Sud. Il s'agit d'une fête légale instituée en 1996 dans le but de sensibiliser la population à l'importance de la mer. À cette occasion, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche organise, en collaboration avec les collectivités locales et les organismes concernés, divers événements culturels et expérientiels liés à ce jour spécial dans tout le pays. La semaine de la mer a débuté le 26 mai et prendra fin le 3 juin. La cérémonie commémorative de la Journée de la mer a eu lieu aujourd'hui au Grand Parc de l'Exposition de Gyeongju dans la province de Gyeongsang du Nord. C'est la première fois que ce moment s'est tenu dans cette ville. Étant donné que celle-ci est riche en sites historiques et culturels, beaucoup de gens la considèrent comme une ville intérieure. Cependant, elle est bordée par la mer sur une longueur de 45 km. L'exposition maritime et halieutique s'y déroulera dès aujourd'hui jusqu'au 2 juin. Cette manifestation vise à découvrir de nouvelles industries maritimes et à promouvoir le développement des entreprises remarquables dans les domaines des produits alimentaires marins, des équipements et des sports de loisirs. Des expositions, des séminaires et des rendez-vous d'affaires auront également lieu. À Busan, la 28e édition du Festival du port de Busan s'est tenue le week-end dernier. Et le 3 juin, un concert de Kugak, la musique classique coréenne, sur le thème de la mer sera proposé. Dans la province de Chungcheong du Sud, le festival du produit de la mer du port de Changhang a commencé le 27 mai et se terminera le 6 juin. Les visiteurs auront l'occasion de déguster des produits maritimes frais. Divers programmes seront aussi proposés, notamment l'expérience de pêche à main nue, qui est très appréciée tant des enfants que des adultes. De son côté, la municipalité d'Incheon célèbre le 1er juin le 120e anniversaire de l'allumage du phare de Palmido avec un événement commémoratif. Ce dernier est le phare de style moderne le plus ancien qui existe encore en Corée. Construit en 1903, après un an de travaux, c'est le premier bâtiment en béton au pays du matin clair. Il est situé au sommet de l'île de Palmido et mesure 8 mètres de hauteur et 3 mètres de diamètre. Il conserve encore en grande partie son apparence originale. La lumière de ce phare éclaire la voie maritime d'Incheon, située à 16 km vers le nord-est, et contribue à assurer une navigation des bateaux en sécurité. Cette tour, qui a été fermée en 2003 en raison de sa vétusté, sera à nouveau allumée lors de l'événement du 1er juin et le restera jusqu'au lendemain matin. Un nouveau phare installé à côté de l'ancien sera également illuminé en même temps pour éclairer la voie maritime. Vendredi dernier, un accident s'est produit à l'aéroport international de Daegu. Un passager a forcé l'ouverture de la porte d'un avion qui était en train d'atterrir. D'autres passagers et des membres d'équipage ont empêché cet homme de sauter par la porte ouverte et il a ensuite été maîtrisé. Après cet incident, une photo de l'avion accidenté a été publiée. Sur cette image, on peut voir un membre d'équipage en uniforme portant une jupe étendant les bras pour bloquer la porte ouverte où une barre de sécurité était installée. Lorsque cette photo s'est répandue sur les réseaux sociaux, certains ont fait remarquer que la tenue de ce membre d'équipage semblait être très inconfortable. Un internaute a souligné qu'il serait préférable de changer l'uniforme des membres d'équipage en pantalon. Depuis longtemps, la jupe des membres d'équipage d'avion a été critiquée pour être embêtant dans l'exercice de leurs fonctions. Dans des situations d'urgence, comme cet accident, il arrive parfois qu'ils doivent monter sur des sièges pour guider les passagers ou même pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur un patient. Cependant, la jupe limite inévitablement ces activités. Finalement, en février 2013, la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé à la compagnie aérienne Asiana Airlines de permettre à ses hôtesses de l'air de choisir entre des uniformes composés d'une jupe ou d'un pantalon. Depuis lors, elles ont la liberté de choisir parmi les options fournies par leur compagnie. Les règlements spécifiant le port de pantalons ou de jupes ont été éliminés. Cependant, en réalité, les pantalons ne sont pas implicitement acceptés. Asiana Airlines, par exemple, ne fournit pas de pantalons en tant qu'uniforme de base, mais les distribue uniquement sur demande. Juridiquement, les agents de bord sont considérés comme travailleurs de sécurité. La loi sur la sécurité aérienne les définit comme personnes qui exercent les fonctions pour la sécurité des passagers, telles que l'évacuation de ces derniers en cas d'urgence. Cette loi stipule également que ces agents ont le pouvoir d'empêcher les actes compromettant la sécurité de l'avion en vertu de la délégation du commandant de bord. C'est pourquoi de nombreuses personnes remarquent qu'il est nécessaire d'avoir des réglementations vestimentaires centrées sur la sécurité plutôt que sur le service en cabine. Pour notre première pause musicale, écoutons une chanson de circonstance. Piengi, l'avion, interprété par Kobugi.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour de mercredi 31 mai, vous êtes en compagnie de Ko Jang-sun. La Corée du Sud est un pays avec un excellent niveau de sécurité. Cependant, les Sud-Coréens ne s'en rendent généralement pas compte dans leur vie quotidienne. Dans un café, il est courant de voir les clients laisser leur ordinateur portable ou leur sac sur la table pendant qu'ils s'absentent un moment. Cela est considéré comme naturel par les Sud-Coréens, mais pas aux yeux des touristes étrangers. Dans ce contexte, ces derniers qui visitent le pays du matin clair semblent considérer que ce pays est sûr. Selon un sondage sur la satisfaction des voyageurs étrangers qui ont visité la Corée du Sud en 2019, ils étaient le plus satisfaits de la sécurité publique avec 92%, plus que le shopping et les transports en commun. De plus, le niveau de sécurité du pays continue de s'améliorer. On peut considérer que le niveau de sécurité d'une société se bonifie si le ratio entre les effectifs de sécurité publique, tels que les policiers et les pompiers, et le nombre d'habitants baisse. D'après des statistiques, en Corée du Sud, le nombre d'agents de police a continué d'augmenter. Et le ratio de population par policier a diminué de 500 en 2011 à 400 en 2021. Pendant la même période, le nombre de pompiers est également passé de 1300 à 800. Le nombre de crimes est aussi en baisse. Selon le parquet, le taux de criminalité, qui représente le nombre de crimes pour 100 000 habitants, est passé de 2000 en 2011 à 1800 10 ans plus tard. Ces changements ont eu un impact sur la perception des citoyens. Selon une enquête réalisée par l'Institut national des statistiques, l'an dernier, 70% des Sud-Coréens se sentaient relativement en sécurité ou très en sécurité lorsqu'ils marchaient dans les rues la nuit. À titre de comparaison, ce taux était de 56% en 2010. Les progrès des technologies de l'information ont largement contribué à l'amélioration du niveau de sécurité. Ces derniers temps, des services combinant les technologies de l'information et la sécurité se sont rapidement répandus, en particulier au niveau des collectivités locales. Par exemple, la ville de Séoul a développé et exploite une application dénommée Anshimi pour assurer la sécurité des citoyens lors de leur retour à domicile. Ce logiciel est lié à plus de 80 000 caméras de vidéosurveillance installés partout dans la capitale et porte assistance 24 heures sur 24 pour la sécurité. Il y a quelques années, un suspect a été arrêté en moins de 10 minutes grâce à un signalement via cette application. Les technologies de sécurité publique de la Corée du Sud se diffusent à l'étranger. le gouvernement mène des projets de transfert de ces systèmes avancés à des pays d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine et d'autres régions du monde. Une femme américaine âgée de 80 ans fait sensation en exposant des tableaux qu'elle a peints dans le but de rendre hommage à la jeune militante indépendantiste coréenne Yoo Hwan-soon et de faire connaître son esprit de sacrifice. Yoo a participé au mouvement du 1er mars 1919 à l'âge de 16 ans pour l'indépendance de la Corée avant d'être incarcérée et torturée à mort. Selon The Korea Daily, la peintre s'appelle Maureen Gaffney Ulfson. Elle expose ses œuvres représentant la jeune Coréenne à Los Angeles, en Californie. De nombreuses personnes, y compris des hommes politiques, ont visité cette exposition. L'artiste espère que les responsables du consulat général sud-coréen de Los Angeles, du Centre d'éducation de Corée et des écoles coréennes se rendront à l'événement et rencontreront la jeune héroïne indépendantiste. En particulier, elle a exprimé sa volonté de faire don de sa peinture exposée si les Coréano-Américains vivant aux États-Unis souhaitent les apprécier et les conserver plus longtemps. Ulfson réside dans le sud de la Californie. Après avoir travaillé comme mannequin, actrice, chanteuse à Hollywood, elle passe maintenant sa retraite à peindre. Elle n'a jamais visité la Corée et n'a aucun lien avec le pays. Cependant, il y a 5 ans, elle a découvert Yoo Hwan-soon par hasard et son noble esprit de sacrifice. En pensant à cette femme qui a subi des tortures brutales jusqu'à sa mort, elle a versé des larmes et s'est interrogée sur le sens de la vie et de la patrie. En suivant l'histoire de la combattante, elle a étudié la période de l'occupation japonaise en Corée et la guerre de Corée de 1950 à 1953. Par la suite, elle s'est également renseignée sur l'industrialisation, le processus de démocratisation et le développement de la Corée du Sud en tant que puissance économique mondiale. Selon la peintre, elle a réalisé ses peintures à travers les inspirations qu'elle a trouvées par ses recherches sur Yoo. C'est pourquoi la plupart de ses œuvres revêtent un caractère abstrait. Un de ses tableaux est exposé au lycée féminin d'Iwa à Séoul. Elle a offert en 2019 à l'occasion du 100e anniversaire du mouvement d'indépendance coréen. En reconnaissance de ce don, lors de sa récente visite à Los Angeles, la présidente de l'université féminine d'Iwa, Kim Eun-mi, a rencontré l'artiste et lui a transmis un message de gratitude. Avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter la chanson de Oulala Session, Kuryobonda, Je peins. Et avant de passer le micro à Antoine Coppola pour Tout un cinéma, le 24 mai dernier, il y a tout juste une semaine donc, Fabien Leclerc, qui enseigne le français à l'Université nationale d'Incheon, nous avait rendu visite avec ses élèves. Il a été interviewé à cette occasion par Ohayon. Notre invité commence par se présenter à nos auditeurs.
Bonjour, donc je suis Fabien Leclerc, professeur de français à l'Université nationale d'Incheon, une université à Songdo, université nationale.
Aujourd'hui, vous nous avez rendu visite avec vos élèves de 3e et de 4e année. Est-ce que vous faites souvent des sorties comme celle-ci ensemble ?
Alors, c'est un cours particulier. C'est le cours de compréhension du business européen. Donc, on visite beaucoup d'entreprises allemandes et francophones. Donc, on visite plutôt des entreprises normalement à Songdo.
Mais qu'est-ce qui l'a poussé à frapper aux portes du service français ?
C'est déjà, vous nous avez fait l'honneur de nous accepter. C'est vrai que c'est un peu difficile de trouver des organismes francophones où tout se fait en français. Et donc, c'était vraiment très intéressant de montrer à nos étudiants comment ça se passait de travailler en français en Corée.
Alors, en cours, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour leur faire apprendre la langue de Molière ?
Alors, il y a beaucoup de méthodes différentes.
Oui.
Personnellement, dans mes classes, j'utilise un manuel que j'ai préparé moi-même.
Vous-même.
Des vidéos YouTube. Mmh. Et aussi, j'utilise des sites internet que j'ai créés. Donc, Verbe Fab pour la conjugaison du français. Et des sites de vocabulaire que je suis en train de créer encore actuellement.
Oh, bravo.
Et la radio peut-elle être un bon outil pour l'apprentissage d'une langue ? Continuons d'écouter le professeur Leclerc.
Bien sûr, c'est un bon outil pour l'apprentissage d'une langue, mais c'est un outil qui intervient dans la fin de l'apprentissage. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu trop difficile pour les étudiants qui débutent le français. Et donc, il y a beaucoup de choses sur YouTube qui sont plus accessibles, mais à partir du moment où les étudiants travaillent pour le B1, surtout le B2 et le DALF C1, c'est vrai que la radio, c'est un outil incroyable pour améliorer sa compréhension orale.
À votre avis, quel est le point fort de vos élèves et leur point faible ?
Vous voulez dire les élèves coréens ou mes élèves ?
Oh, les deux.
Ah, mes élèves n'ont aucun point faible.
Ah, d'accord.
Mais je dirais, comme je participe beaucoup au DELF, aux sessions du DELF en Corée, très clairement, le point faible des Coréens est sans doute la compréhension orale. C'est là où ils ont le plus de mal et les plus mauvaises notes souvent. Sinon, le point fort, je pense que c'est la capacité de travail, la capacité de mémorisation, puisque à l'école, ils ont dû en faire beaucoup, beaucoup pour le baccalauréat coréen. Donc, je pense que c'est leur point fort.
Et avec le professeur Leclerc, nous recevons aujourd'hui 5 élèves et nous avons invité 2 d'entre eux à s'exprimer à l'antenne. Mademoiselle.
Bonjour à tous, je m'appelle Sabine, j'ai 23 ans et je suis étudiante au département de français de l'université d'Ongchang. Enchantée.
Bonjour à tous, je m'appelle Yunsa, je suis étudiante à l'université d'Ongchang. Merci de m'avoir invitée.
Alors Sabine, depuis quand vous apprenez le français?
Depuis l'âge de 20 ans, en entrant à l'université, j'ai appris le français.
Et vous Yunsa?
J'ai appris le français en entrant à l'université. Ça fait environ 3 ans.
Yunsa parle à présent de l'avantage de parler français, même si parfois c'est difficile de l'apprendre en raison de la grammaire et de la prononciation.
Grâce à l'apprentissage du français, j'ai pu me faire beaucoup d'amis étrangers. Et j'ai voyagé en Europe pendant les vacances et tout le monde pouvait utiliser le français même dans les pays non francophones.
Et vous, Sabine?
Quand j'ai entendu le français dans la série Netflix, Emily va à Paris, j'étais très fière.
Okay. Avant de venir dans nos locaux, avez-vous déjà écouté notre station?
Bien sûr, KBS Station aide beaucoup les jeunes qui étudient les langues.
Bien sûr, KBS est une émission nationale et notre professeur Fabien nous a toujours recommandé cette émission.
Rappelons que le message que Subin avait envoyé a même été présenté dans notre émission Entre nous du 24 avril.
Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous souhaitez faire après vos études?
Je veux aller en France et essayer le français que j'ai appris avec les Français. Alors, je pense que je vais être très fière.
Et vous, Insa?
Après mes études, je voudrais travailler comme l'autiste de l'air. Je veux raconter différentes personnes par les bases de la langue.
Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir accordé cet entretien. En vous souhaitant faire beaucoup de progrès en français à l'écoute de notre station, voici 크게 라디오를 켜고 en mettant à fond la radio de Shinawi.
Bonjour à toutes et à tous, l'acteur Steven Yeun nous étonne à nouveau en étant le premier rôle de la série comique américaine Beef, située dans la communauté asiatique aux États-Unis. Ce milieu souvent montré entre deux extrêmes, soit les riches dirigeants, leur industrie à Séoul ou Tokyo, depuis la Californie, soit les pauvres travailleurs immigrés des fermes, des restaurants et des ateliers de confection. Avec Beef, le propos sociologique est réactualisé. Tout le monde est en crise, du prolo joué par Steven Yeun à la bourgeoise jouée par Ali Wong. Voyons ça de plus près. L'intrigue suit d'abord le factotum interprété par un débonnaire Steven Yeun avant d'interpeller avec la bourgeoise Pembesh interprétée par Ali Wong. L'un, d'origine coréenne, vit dans la Koreatown de Los Angeles, avec son cousin Glander, accro à la crypto-monnaie. Leur famille est rentrée en Corée du Sud après que leur business de motel californien a fait faillite. Néanmoins, le personnage de Yeon reste sous pression des parents à travers des coups de fil depuis la Corée. Tout commence lorsque le jeune homme pète les plombs dans un de ces hypermarchés californiens. À la sortie, en manœuvrant sur le parking, il est à deux doigts d'emboutir la voiture d'Ali Wong. Elle était sur place pour négocier une vente des œuvres d'art de son mari avec la patronne de la chaîne de supermarché. L'incident tourne à la course-poursuite des deux personnages surexcités. Yun laisse filer Wong, mais jure de se venger. C'est ce qu'il fait peu après en allant pisser partout dans la maison de luxe du couple.
Amy, are you okay?
Yeah. I've been hustling my whole life.
And look where it's gotten me.
Il suffit de connaître un peu le parcours de Steven Yeun pour s'apercevoir que la série, dans ses prémices, introduit une sorte d'auto-parodie de la vie et la carrière de l'acteur. La vie à Los Angeles, avec son cousin, ressemble à celle de Yeun avec son frère à Chicago, avant son casting pour The Walking Dead. Les critiques du cousin envers Yeun, trop suiveur des conseils de ses parents, notamment le mariage avec une fille d'origine coréenne, fait écho au propre mariage de Yeun avec Joanna Park en 2016, elle aussi d'origine coréenne. Cet aspect auto-parodique touche l'ensemble de l'importante communauté asiatique de Los Angeles, notamment les Coréens.
What is your problem? What?
Cela se retrouve dans la production avec Lee Sung-jin, alias Sonny Lee, scénariste et réalisateur de télévision aux USA depuis une douzaine d'années, mais né en Corée du Sud. Il dit clairement dans ses interviews que son idée était de redépeindre la crise de la communauté asiatique, notamment la supposée solidarité qu'on lui prête. Profitant du fait que chaque épisode a un réalisateur différent et un scénariste différent, il a néanmoins rempli l'équipe technique des Américains venus d'Asie, comme la réalisatrice japonaise Hiraki, pour trois épisodes, la scénariste originaire du Vietnam, Marie Anon Nguyen, ou la scénariste d'origine coréenne, Jin Kyung Frazier. À l'instar d'Ali Wong, frustré sur son propre devenir de femme dépendante, l'ensemble des personnages a pour point commun d'être au bord de la crise de nerfs, de l'implosion devant une quête de la réussite vaine qui tourne à l'extrémisme hystérique, dans leur réaction derrière une façade de Bouddha souriant. Au-delà des communautés ethniques aux USA, la série offre une critique sardonique du marché de l'art et du rêve américain du prolétariat migrant. Ali Wong, en étant la femme d'affaires de son mari artiste, dévoile les dessous du marché de l'art. En particulier, on la voit dénigrer les œuvres de son conjoint dont elle ne comprend pas le succès. Elle dévoile aussi la filiation de l'artiste avec des parents riches et connus du milieu. Le marché de l'art, comme système de capitalisation pour les riches, est clairement démonté. De même, le personnage de Steven Yeun représente les rêves des prolos de tous les pays débarquant en Amérique du Nord. Plein d'énergie, il s'évertue à monter des affaires lucratives qui s'avèrent souvent des échecs lourds de conséquences. En passant, ils s'exploitent les uns les autres, se trahissent et se mentent comme Yeun et son oncle supposé. Cette dynamique de dévoilement des dessous de chaque famille, de chaque personnage, anime la série, provoquant des rebondissements et allant chercher dans une réalité beaucoup plus sombre que celle reflétée par les apparences du rêve médiatique californien.
I have a very full life that I'd love to get back to. I'm gonna find you and take what little you have. You're just a suburban housewife.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.